Merci Julien. Oui, en effet, on reçoit Aurélien Amiot du cinéma Le Petit Casino de Saint-Aignan. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors dans cette émission, on va parler de plusieurs choses. Bon, bien sûr, du cinéma Le Petit Casino. Tu es là pour ça, tu es venu de Saint-Aignan pour ça et on te remercie.
Ah, pas que, on peut parler de cinéma en général aussi, ça ne me dérange pas.
On va parler du mois du film documentaire, ouais. La programmation du mois de novembre aussi. Et puis peut-être les idées pour le mois de décembre. Tu es en train de finir la programmation,
ouais,
c'est ça?
Je suis en pleine programmation, donc je te donnerai quelques exclusivités.
Pour commencer, on va tout de suite se mettre dans l'ambiance du premier film qu'on va présenter. Donc, ce sont les Décentrés. On vous laisse écouter, ouvrir vos oreilles et profiter de ce son.
Passez les articles devant le lecteur. Passez les articles devant le lecteur.
Non, non. Ah, d'accord. Ah oui, ok.
C'est l'article sur... Oh.
Une baguette, oui.
Vous en avez une, vous mettez un, c'était terminé, et vous mettez sur la balance.
D'accord.
Vous pouvez placer l'article sur la balance.
Ah oui, c'est tout. 8,64. Ah oui, mais attends. Il faut un billet.
Caissière. Caissier. C'est vieux, ça.
Plus petit et plus mûr.
Maintenant, c'est plus joli de dire hôtesse. Les anciennes qui sont chez nous, elles ont 40 ans de métier dans la boîte. Elles n'ont pas ce souci-là, parce qu'elles attendent la retraite. Alors que nous, les jeunes de maintenant, dans 20 ans, il faut attendre 20 ans. Mais 20 ans, c'est... Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Le drive, Internet, tout, hein. Voilà. Après, bon, bah, retrouver du travail, parce que c'est ce qui va arriver un jour ou l'autre, de toute façon. J'en suis consciente de ça. On peut pas reculer et revenir en arrière, c'est pas possible. Il faut aller de l'avant. On y pense, parce qu'on a des réunions une fois par mois, par rapport de ce qui va se passer dans le magasin, dans tous les Auchan, le chiffre d'affaires, l'évolution de ce qu'il va faire, de ce qu'il va y avoir. Et remonter la pente au niveau de la crise, quoi. Il nous en parle régulièrement, oui. Bon, on verra comment que ça va se passer. J'espère que non, quand même. Que les hôtesses de caisse vont pas vraiment... Parce qu'il en faudra toujours. Il y en aura toujours, quand même.
Dans ce film documentaire, Les Décentrés, de Xavier Champagnac, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Il sera là, du coup, le mercredi 25.
25 novembre, donc ouais. Ça sera à 21h, la projection.
C'est ça.
Et donc, dans ce film, il nous emmène dans des zones assez particulières, malgré qu'elles soient beaucoup fréquentées, ce sont les centres commerciaux.
Ouais, c'est assez paradoxal. Des zones commerciales. Ouais. C'est des lieux assez familiers, au final. Nous, en tant que personne lambda, on y va fréquemment, mais c'est des lieux de passage, en fait. C'est des lieux vraiment de passage, on y va, on s'y arrête pas, quoi. C'est des passages brefs. Et le film met l'accent sur le fait qu'il y a des gens qui y travaillent, du coup, qui y passent l'intégralité de leur journée. C'est un film de portrait, en fait. Du coup, il y a différents personnages. Là, on a entendu l'extrait qu'on a entendu, c'est du coup une caissière, je crois, qui s'appelle Nathalie, Hélène, je sais plus, j'ai perdu. Et du coup, là, elle parle de ça aussi, de l'avenir, avec la modernisation, tout ça, les questions qu'elle peut se poser sur son métier. Il y a un autre portrait sur un vieux monsieur, du coup, qui, lui, travaillait en tant qu'agriculteur dans ce lieu-là, avant que ce soit urbanisé, quoi. Donc, il y a aussi la question de l'urbanisation. Et qui lui a tenu bon, il continue du coup à travailler, à vivre. Donc au milieu de tous ces gros centres commerciaux, ces gros magasins, c'est assez assez particulier. Ouais.
Et puis c'est aussi un film régional, enfin de la région. Ouais. Ça a été tourné à Chambray-les-Tours, dans la zone commerciale de Chambray, coproduit par TV Tours. Et puis il a reçu le soutien de la Cyclique.
Voilà. De Cyclique, ouais. Cyclique, c'est l'agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique. Ils ont plusieurs casquettes, en fait. Ils ont plusieurs pôles. Là, du coup, c'est le pôle production. Ça doit être ça. Ils ont le pôle production, diffusion, exploitation. Un pôle archive aussi. Et donc du coup voilà, sur ce genre de film, ils proposent des aides en fait à la production. Alors il y en a plusieurs, je sais pas exactement, je me rappelle plus exactement quelle aide les décentrés a pu avoir sur le film, mais ouais, c'est une aide à la production.
Donc il fait partie du mois du film documentaire. Ouais. Il y avait deux films, c'est bien.
Alors il y a même un troisième film du coup qui s'est rajouté après. Moi j'essaie de travailler avec Cyclique parce que du coup l'avantage de travailler avec eux c'est qu'ils ont un réseau. Mm-hmm. Et comme du coup ils ont le contact avec les réalisateurs vu qu'ils ont aidé les films à la production. Nous, ça nous permet, en plus de projeter le film, d'avoir le réalisateur qui vienne discuter du coup avec nos spectateurs. Donc là, du coup, on a Xavier Champagnac qui sera là le mercredi 25 pour les décentrer. Et la semaine dernière, donc le jeudi 12, on a eu Mathieu Barrère, donc qui a réalisé Nocturne.
Alors, est-ce que tu peux présenter un peu ce film Nocturne ? Il y a Julien qui a réalisé un son, voilà, il a assisté à la projection et puis au débat ensuite qu'il a eu avec le réalisateur. C'est un film assez particulier, encore une fois sur un lieu
très particulier aussi.
À la fois des fois très peuplé, des fois vide, ouais. Et voilà.
Là, c'est plus l'aspect vide du coup. Ouais, donc Nocturne, ça se passe dans l'hippodrome de Vincennes. Donc ça s'intéresse, le film s'intéresse du coup à une bande de jeunes joueurs qui habitent le lieu pendant les nocturnes donc de l'hippodrome de Vincennes. C'est une institution, hein, ça existe depuis les années 60 ou 70 je crois, les nocturnes, c'est tous les mardis soirs et les vendredis soirs. Sauf que du coup voilà, encore une fois, la modernisation fait que du coup bah c'est un lieu qui est déserté quoi. Les gens maintenant parient sur internet, sur leur iPhone, sur tous ces trucs là. Et donc du coup c'est un lieu qui est complètement vide et que du coup s'approprie quoi. Donc au départ Mathieu nous expliquait qu'il voulait lui faire un film sur le lieu, vraiment quoi. Il avait pas dans la tête de faire un film sur ces gens là. Et ils sont venus à sa rencontre et du coup son film est un peu bicéphale, un peu hybride, tu vois. On voit son envie de faire un film sur le lieu et cet aspect-là qui s'est greffé. Donc du coup, il crée deux espaces. T'as vraiment l'intérieur de l'hippodrome de Vincennes avec les jeunes qu'eux habitent et les pistes qu'il filme aussi à part. Et il joue sur le montage, vraiment très très. C'est un point très important. Et il crée une absence de porosité entre les deux mondes en fait, entre la piste en tant que telle, les chevaux qui y courent et ces jeunes-là en fait, du coup qui.
Il y a aucun lien.
Le lien en fait se fait par les écrans.
D'accord.
Tu vois, en fait, ils ont la piste devant les yeux, mais on les voit toujours fixés sur les écrans. Donc il y a une espèce d'intermédiaire entre ces deux mondes-là. C'est le monde virtuel quoi, les écrans.
Eh bien on s'écoute un petit extrait de cette rencontre avec le réalisateur Mathieu Barrère.
Pendant le mois du film documentaire, nous sommes allés au Petit Casino ce jeudi 12 novembre pour aller voir le film Nocturne de Mathieu Barrère. Nous allons entendre Aurélien Amiot, projectionniste au Petit Casino, présenter ce film, puis nous allons entendre la bande-annonce du film et enfin quelques questions.
Voilà, nous on va juste vous dire un petit mot en première partie, bah voilà, pour vous remercier d'être là. Je vais en profiter aussi pour remercier Cyclique, donc, qui est représenté ici par Clémentine, qui nous dira un petit mot tout à l'heure sur l'implication de Cyclique, sur le pôle diffusion, sur le mois du doc, sur tout ça. Et puis un grand merci à Mathieu,
Mathieu Barrère, donc le réalisateur du film de ce soir, de Nocturne, qui est là avec nous du coup pour venir discuter de son film. Bon, à l'issue de la séance, hein, on va pas, je pense que tu peux pas trop en dire maintenant.
Non, mais je peux dire deux mots.
Ouais. Apparemment, le film est sujet à controverse, donc vous êtes trois, donc ça va.
Pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait naître des débats.
Voilà. C'est ça.
C'est que c'est un film qui produit de la parole. Et non, mais voilà, en fait, c'est mon premier film. J'ai commencé à le tourner en septembre 2012 et j'ai terminé le tournage en juin 2014 et terminé le film en novembre 2014. Il est sorti cette année en mars dans un festival à Paris qui s'appelle le Cinéma du Réel. Bon, après il a fait plusieurs festivals, une petite tournée. Et voilà, c'est un film donc, qui se passe dans l'hippodrome de Vincennes près de Paris. J'ai rencontré Kader, Saphir, Mehdi et Belka au moins un an après avoir commencé à tourner là-bas, je pense. Un peu moins d'un an, je crois. Ils sont venus me voir parce qu'ils étaient tout le temps là-bas. Ils me voyaient tout le temps faire des plans, etc. Ils étaient un peu intrigués. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. J'ai commencé à les filmer assez tôt. Peut-être même le premier soir, en fait. Je pense qu'ils avaient un désir de cinéma. Et puis, je suis resté des mois avec eux.
Toi, à l'origine, voilà. T'étais là-bas pourquoi ?
Bah, moi je connaissais pas, enfin l'univers du jeu je le connais pas, je suis pas du tout joueur. Moi j'y suis arrivé par hasard, c'est une amie qui m'a amené. Et d'emblée j'ai eu l'impression de découvrir un lieu qui pouvait être le mien, quoi, que je pouvais m'approprier, dans lequel je me sentais assez bien en fait. Alors ça peut paraître surprenant parce que vous verrez, il y a plus grand monde dans ce lieu-là. Mais voilà, je m'y trouvais assez bien, donc j'ai eu d'emblée envie de faire un film là-bas. Et puis finalement, je l'ai fait avec eux. Voilà.
Est-ce que tu peux nous rappeler l'implication de Cyclic du coup dans la production du film ?
Cyclic, en fait.
C'est une aide à la société de production qui s'appelle Alter Ego. Donc c'est une aide qui est un peu plus directe. Ouais. On appelle ça une aide aux industries. En fait, on subventionne certaines structures de la région qui ensuite vont donner les aides à un certain nombre de leurs réalisateurs ou des projets qu'ils reçoivent. Donc c'est dans ce cadre-là que Cyclic a aidé le film de Mathieu Nocturne. Donc c'est une aide qu'on appelle indirecte, mais je ne sais pas à quelle hauteur, etc. Après, mais, bon.
Ça, c'est, vous savez, les...
Ouais, voilà.
En général, les finances, c'est la production.
C'est la partie opaque.
C'est la production.
Mais voilà, nous à Cyclic, on est très contents aussi de présenter ce film-là dans le cadre du mois du film documentaire. C'est l'occasion aussi de montrer d'autres formes, des formats qui sont moins à la télé, qu'on a plus de mal à voir. Donc on est heureux de pouvoir faire ces rencontres et puis aussi accueillir les réalisateurs. Voilà.
Voilà, après on peut en discuter. Hein.
Oui.
En général, les gens ont des questions. Bon. On va lancer.
C'est bon pour vous. Alors juste avant la séance, du coup, on vous a programmé un court métrage de 7 minutes qui s'appelle Le Périmètre.
De Cédric Michel,
ouais.
C'est un réalisateur tourangeau.
C'est ça. Voilà. Ça a été produit aussi, par Sans Canal Fixe, donc ouais. Société Tourangelle.
Ouais,
donc le film n'est pas programmé pour rien. Du coup, moi, je trouve qu'il y a des échos avec le film de Mathieu. Si tu restes pour le voir, on pourrait éventuellement aussi en discuter, ouais. En discuter après. Voir ce que tu en as pensé, si c'était justifié ou pas. Voilà.
Ça marche.
On vous souhaite une bonne séance. Et puis on en parle après, comme dirait l'autre.
Oh, oui.
Le bon parcours, mon ami. Joss, le bon parcours, Joss. Fais pas une connerie. Reste pas avec des rats comme ça.
Tu me rembourses un ticket ou quoi ?
Attends. Laisse-moi tranquille, laisse-moi bosser. Laisse-moi bosser. Le bon parcours, Joss, sors le pas. Il va nous ramener. Allez, ramène-nous. C'est le fils de pute. Ramène-nous, Joss. Allez, Joss, va. T'es déclassé ce soir, Joss. Sauve-toi, reste pas avec des rats comme ça.
Je veux pas de rats.
Allez, petit Joss, va. Allez, file le doublé. Allez, Joss, va. Je te fais confiance, Joss, va. Allez, quand même, sors-le, toi aussi. Allez, chauffez-vous, là. Allez, chauffe-toi un peu, là. Allez, chauffe-toi un peu, gratte ta place, au moins. Allez, Joss, va, c'est fait. Allez, Jossy. C'est fait, quand même, un peu. Gratte ta place, voilà. Gratte ta place, fils de pute, quoi. Gratte ta place, sale fils de pute. Gratte ta place, fils de pute. Allez, Joss, vas-y, fais. Allez, rentre à la maison, Joss.
Il est maintenant temps de poser des questions à Mathieu. Mais dis-moi Mathieu, qu'est-ce que c'est que ces nocturnes ?
Alors les nocturnes, ça a lieu deux fois par semaine, le mardi soir et le vendredi soir. Ça dure 4 heures, enfin un peu moins de 4 heures. Ça commence à 19h30, je pense, ça termine à 23h30.
D'accord.
Voilà. Et c'est une institution, ça existe depuis 60 ans, je pense, ces nocturnes.
Ah oui ?
Ouais.
C'est surprenant. Parce qu'il y a peu de monde quand même. Quand j'ai lu le petit ce que tu m'as envoyé, ouais. Bon, j'ai regardé un petit peu, et pour moi c'était des squatteurs. Je voyais des squatteurs qui étaient là en période d'inoccupation de l'hippodrome.
Quoi. Non, pas du tout, c'est pas des squatteurs. C'est des turfistes, c'est des joueurs.
Ah oui, bah
oui, c'est assez clair dans le film.
Il y a tout un vocabulaire, ouais, c'est assez génial.
Oui. C'est des gens qui font quoi dans la vie ? Parce que tu as l'occasion, j'imagine, pendant ces quelques mois de
ils
les côtoyer.
Ouais, mais ils ont pas mal changé de boulot. Ils avaient des petits boulots. Ça dépend, en fait. En général, ils changent pas mal de travail. Ouais. Je sais Kader, il posait des clims. Je sais qu'il travaillait avec quelqu'un qui posait des clims à domicile partout dans Paris. Ça dépend. Voilà. Je sais qu'ils ont pas mal changé de boulot.
Ils ont accepté sans problème, parce que là, c'est quand même dans une ambiance, même si l'hippodrome est vaste, c'était filmé dans un endroit assez...
Sans problème. Ouais. Enfin, c'est même pas qu'ils m'ont accepté, c'est que j'ai même pas eu à leur demander. C'est-à-dire que ça s'est fait très spontanément dès le début. De toute façon, en général, les relations filmeurs-filmés, c'est pas forcément des contrats explicites, c'est des choses qui se font, et après... Après, effectivement, au bout de 2-3 semaines, voire 2 mois, on leur dit « Bon, ça vous dirait dans le film. » Alors qu'ils sont déjà, ils y sont déjà. Mais ça se fait très spontanément. C'est-à-dire que... Puis en plus, je sais pas, c'était eux qui étaient venus me trouver. Moi, je me souviens, j'étais en train de me promener. Et ils sont venus me voir. Un peu suspicieux au début.
Parce que tu filmais déjà ?
Moi, je filmais. Ouais, c'est déjà un an que je filmais, en fait. Parce que c'était moi, je voulais faire un portrait du lieu. D'accord. Le film, pour moi, c'est d'abord un portrait du lieu. Et au début, je pensais filmer quelqu'un qui s'appelait Fethi, mais il était beaucoup plus âgé, et puis sa santé s'est détériorée avec le temps. Donc ça a été compliqué. Et puis eux, au même moment, ils sont venus me trouver. Et voilà, c'est une sorte de hasard, de heureux hasard. Et voilà, ils sont venus me voir presque pour me demander qu'est-ce que je faisais là, au sens où... J'étais un peu chez eux, et du coup, ils me voyaient passer constamment.
Ah oui, voilà, c'est leur domaine. Hein.
Merci pour ce film et merci pour ces renseignements, Mathieu. Vous écoutez Studio Zef sur 91.10 FM à Blois et aux alentours, ou studiozef.fr sur Internet. À bientôt.
Eh bien, merci Julien pour ce retour donc sur cette projection de Nocturne en présence du réalisateur.
C'est un film qui a un format un peu, on va dire, bâtard, parce que du coup, c'est un film qui fait 41 minutes. Mm-hmm. Donc avant, c'était un film qui était qualifié de moyen-métrage. C'est un nom qui a disparu, en fait. Maintenant, un film, c'est soit un court s'il fait moins de 59 minutes, ou un long s'il fait à partir d'une heure, quoi. Il y a plus d'entre-deux, quoi. Donc c'est vrai que c'est des films qui sont pas évidents à programmer, parce que sur un court, nous, on peut se permettre de le programmer, par exemple, en avant-séance, mm-hmm. avant un de nos longs métrages. Tu vois, on trouve une thématique, si c'est le même réalisateur, si la technique est peut être similaire, on peut programmer ce genre de film. Si le court métrage excède pas un quart d'heure, ça passe. Là, sur des films de 40 minutes, c'est un petit peu plus difficile, quoi. Ça fait c'est la moitié de la durée d'un long. Et c'est suffisamment long pour ne plus être un court, quoi. Donc c'est pas évident à programmer, ouais, c'est les formats difficiles.
On va revenir un peu sur la programmation de cette fin de mois de novembre. Il reste encore quelques projections de En mai, fais ce qu'il te plaît. et Les Nouvelles Aventures d'Aladin.
Là.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film, Les Nouvelles Aventures d'Aladin? Vous le reprogrammez, c'est ça?
Ouais, c'est une reprise. Du coup, on a passé le film au mois d'octobre. Comme vous le savez sûrement, le film a cartonné absolument partout. Donc voilà, nous, on se permet de faire des reprises là-dessus, pour être sûr que tous nos spectateurs aient bien vu le film.
Il y a de la demande sur ce genre de film.
Il y a énormément de demandes. Donc c'est typiquement le genre de film. On fait assez rarement de reprises, vraiment. C'est vraiment juste sur les films comme ça qui cartonnent. Nous, en plus, ça peut nous mettre un peu de beurre dans les épinards, hein, faut le dire. Donc non, c'est des films qui marchent très bien. Ça fait du bien aussi de voir les salles bien remplies comme ça, quoi.
Les comédies ont toujours autant la cote.
Les comédies françaises marchent toujours aussi bien, notamment les comédies, avec des humoristes. Voilà,
Kev Adams, qui est un peu la star du moment.
Voilà.
Et puis d'autres qu'on aime bien, Jean-Paul Roux, Éric Judor.
C'est ça.
En mai, fais ce qu'il te plaît. Christian Carion.
C'est lui qui avait réalisé Joyeux Noël. Donc là, c'est pareil, c'est encore un film sur la Seconde Guerre mondiale et sur l'exode, en fait, des populations au travers du territoire français, quoi.
Très bien. Et puis, il reste encore un week-end pour aller voir le dernier 007.
Ouais, c'est ça. Il est sorti la semaine dernière, donc le mercredi 11. Donc nous, on le passe, on a une semaine de décalage. On le passe le mercredi 18. Donc on a pas mal de séances dessus. C'est pareil, c'est une très très grosse sortie. Il est très très attendu. Il est énormément médiatisé. Le film, on en parle partout, quoi, que ce soit à la radio, à la télévision. On en parle énormément. Nous, le petit plus, c'est qu'on organise deux séances en version originale sous-titrée. Français.
C'est ça.
Donc voilà, si vous êtes des férus de la VO,
dimanche à 18h, si vous voulez voir en VO le dernier 007 qui s'appelle Spectre, voilà.
Exactement.
Deuxième 007 réalisé par Mendes, qui avait fait un plutôt très bon Skyfall, assez noir déjà, un personnage plus sombre avec Daniel Craig en tant que agent du MI6.
C'est ça.
Et puis on se souvient aussi surtout de Sam Mendes pour American Beauty, qui était
c'était un de ses premiers films, et il avait tapé
petite pépite.
Il avait tapé très très fort. Moi, j'ai moins suivi après le reste de sa carrière. C'est vrai que les Sentiers de la Perdition avec Tom Hanks et Jared, la fin de l'innocence avec Jake Gyllenhaal, c'est pas des trucs qui m'attiraient. J'ai peut-être tort, il faudrait peut-être que je les voie effectivement avant de juger, mais j'ai un peu perdu Sam Mendes en fait de vue, et je l'ai récupéré effectivement sur Skyfall, et j'étais agréablement surpris,
Donc les séances, séance samedi à 18h, à 21h, dimanche à 15h et à 18h, et puis ce soir à 21h. Avant de passer au programme de la semaine prochaine, on va s'écouter, c'est Sam Smith qui s'est mis à la chanson. Il y a toujours dans les 007, il y a toujours deux James Bond girls.
Ouais, en général.
Et puis il y a toujours une chanson qui marque un peu le coup, et là c'est Sam Smith, ce jeune britannique qui nous fait un air plutôt pop pour ce nouvel opus de 007, c'est Spectre. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. Feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. I'm so I wanna feel love, run through my blood. Tell me, is this where I give it all up for you? I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. A million shards of glass that haunt me from my past, as the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, c'était Sam Smith pour, avec son titre Writing on the Wall pour le dernier James Bond, donc 007, et il s'appelle Spectre. Cette lettre comme Skyfall d'ailleurs.
Ah, bien joué. Bien joué. Mais pas cette lettre comme Casino Royale.
Ah non, pas du tout. Alors, là.
Ça m'a rappelé un peu la soupe que nous avait fait Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden.
T'es pas fan de cette dernière BO pour ce...
Ça m'a pas transcendé. Ouais. Chris Cornell avait fait peut-être un truc un peu dans ce style-là, très très vocal, très c'était pour Casino Royale. Il y a le beau monde qui est passé derrière les génériques de James Bond.
On se souvient de Adele qui a fait un
ouais,
carton
pour Skyfall. Et Tina Turner.
Tina Turner.
Dans les années 70, il y a pas mal de Eric Clapton avec Knocking on Heaven's Door,
oui,
qui avait repris les Guns N' Roses.
Madonna, il me semble.
Madonna pour un... Alors, c'était
Day by Day.
Ouais, avec Tomorrow... Attends, c'était quoi? C'était Tomorrow's Never Die.
C'est ça.
Avec Pierce Brosnan. Et dans les années 70, il y avait eu pas mal de stars de la Motown, je crois, qui sont passés derrière les génériques de James Bond. Alors que bon, lui, c'est quand même le chanteur de Soundgarden.
Ça reste populaire et britannique, voilà. C'est
ouais,
ça
ouais,
aussi.
Ouais,
hein,
on peut se
007,
dire ça,
c'est ça aussi. Ouais. Ce dernier opus qui apparemment sera assez sombre, bizarrement.
C'est vrai que depuis que Daniel Craig du coup est arrivé dans la saga, il a apporté ce côté-là, je trouve un peu sombre. Il a un peu le même
tourmenté.
Ouais, vraiment. Et puis et frontal quoi.
c'est
un bulldozer quoi. Il joue vraiment un James Bond bulldozer quoi. Il me rappelle un peu moi un autre James Bond que j'aimais beaucoup, c'était Timothy Dalton qui avait aussi interprété un James Bond assez noir comme ça. On sortait de Roger Moore, le côté un peu vieux beau et décalé. Moi j'étais pas vraiment fan quoi, et Timothy Dalton me plaisait bien en James Bond. Il en a fait deux, je crois, deux ou trois, Et je retrouve un peu de ce côté, le côté du personnage un peu, ouais, un peu noir comme ça de, dans l'interprétation de Craig. Ouais.
Qui colle plutôt parce que James Bond, c'est quand même un agent secret qui sauve le monde. Enfin, c'est la 24e fois qu'il sauve le monde.
C'est le 24e épisode, je crois, un truc comme ça. Ouais. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Bon, pour moi, après, le meilleur des James Bond, ça reste quand même le seul acteur qui n'était pas britannique. C'est George Lazenby qui était australien et qu'on a fait qu'un, qui a fait au service secret de Sa Majesté. Qui pour moi reste un des meilleurs James Bond.
Un classique.
Ouais. Avec la sublime Diana Rigg qui jouait Emma Peel dans Chapeau Melon et Bottes de Cuir.
On passe au programme de la semaine prochaine, Hunger Games. J'ai pas trop suivi Hunger Games. Est-ce que tu peux me rafraîchir ou est-ce qu'on en est? C'est le dernier opus là normalement.
Alors,
c'est
ouais,
ça
le dernier opus, il a été tourné en deux parties en fait. Donc là c'est le Hunger Games, la révolte.
Oui, et la partie 2. Donc là voilà, c'est le dernier.
Ça. La partie 1 est sortie en novembre de l'année dernière. C'est réalisé par Francis Lawrence depuis l'épisode 2, si je ne dis pas de bêtises. Un mec qui est pas inintéressant. Moi je l'ai découvert par hasard avec un film avec Keanu Reeves qui s'appelle Constantine.
D'accord.
J'attendais rien de ce film et j'ai été très 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 agréablement surpris. Je me suis pas encore lancé dans les Hunger Games. Je sais pas du tout ce que ça vaut. En tout cas ça cartonne, ça marche très bien. J'avais vu De l'eau pour les éléphants de Francis Lawrence aussi qui était. C'est un bonhomme assez intéressant. Moi j'aime assez ce qu'il fait. J'ai été assez surpris.
Pour cette semaine prochaine, eh bien on a parlé des Décentrés donc qui passera mardi 25 à 21h.
Ouais.
Voilà. Et on a une comédie Lolo et un drame plutôt Mon Roi de Mai Wen.
Le dernier film de Mai Wen, oui, avec
donc Mai Wen qui avait réalisé son dernier film, c'était Police.
Police. Avant, elle avait fait le Bal des actrices. Mm-hmm. Et son premier film, qui était assez bouleversant, c'était
Pardonnez-moi,
qui était un film autobiographique, je pense, sur sa relation, la relation qu'elle avait avec son père. Un film très très dur, très très bouleversant. Moi j'aime beaucoup ce que fait Mai Wen. Elle s'était un peu enfermée dans un dispositif assez intéressant quand même sur ses trois premiers films. Là, le côté un peu documentaire, on sait pas trop. Police était très très chouette pour ça. Et je trouvais intéressant du coup qu'elle en sorte un petit peu. Moi j'attendais ça de sa part, du coup qu'elle explore autre chose quoi, pour pas qu'elle s'enferme là-dedans. Ce qu'elle fait du coup avec Mon Roi. Moi j'ai eu la chance de voir le film à Cannes là au mois de mai.
Un film, Mai Wen a toujours des sujets assez tourmentés.
Et puis je pense peut-être assez autobiographique aussi. Oui. Je pense qu'en filigrane c'est toujours là quoi. Il y a toujours quelque chose d'autobiographique dans ces films quoi. Le Bal des actrices, ça devait être là aussi. Donc non, après bon, le film je l'ai trouvé assez classique pour le coup dans la forme. C'est super intéressant. Hein. C'est sur le fond c'est très intéressant. Mais
Mai Wen fait des films de qualité.
Oui, clairement.
De toute façon ça.
Après c'est subjectif aussi. Hein. Moi je sais que j'ai moins été transporté voilà que sur ces films précédents qui m'avaient plus touché.
On peut dire que Police était quand même impressionnant.
Non, Police était vraiment
impressionnant.
C'était vraiment un chouette film.
Avec Joey Starr qui a surpris tout le monde aussi.
Ouais, mais c'est un super acteur hein, Joey Starr. Moi je l'ai revu dans des films Colt 45 notamment, film du réalisateur de Calvaire Fabrice Duvelts où il est très très chouette aussi. Et il y avait Marina Foïs aussi qui était impressionnante, hein,
oui.
Qu'on a découvert dans Les Robins des Bois. Là, moi, dans ce film-là, elle m'avait mis une grosse claque. Quoi. Karine Viard.
Elle ne fait pas rire en fait dans ce film.
Non, du tout. C'est
elle a un personnage très sombre.
Ouais. Non, c'était vraiment un chouette film. Quoi.
Et puis après, il y a Lolo. Tu vas pouvoir nous en parler un peu. Julie Delpy à la réalisation.
Ouais. C'est une comédie en fait, une comédie populaire. Du coup, comme tu dis, on trouverait Danny Boone, Julie Delpy. Le petit jeune, c'est. J'ai perdu.
Vincent Lacoste.
C'est Vincent Lacoste, bien joué, c'est tout à fait ça. Et Julie Delpy, moi, c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup et je suis assez content du coup qu'elle réalise une comédie un peu populaire comme ça, parce que du coup, c'est un peu le terrain de jeu souvent des humoristes, des one-man show, voilà, Danny Boone qui réalise des films, tout ça. C'est pas forcément très cinématographique, moi, c'est ce qui m'ennuie un peu dans ces films-là, quoi, je m'y retrouve pas. Julie Delpy, elle en a quand même sous le pied, quoi. Elle a fait des trucs super intéressants. Elle a fait un film qui s'appelle La Comtesse. Donc là, elle fait une comédie populaire. Elle a tourné aux États-Unis. Elle a tourné, c'est quoi, Une Nuit à Paris, Une Nuit à New York, un truc comme ça. Enfin non, c'est quelqu'un d'assez intéressant et moi j'ai hâte de voir ce qu'elle nous propose avec quelque chose de très qui a l'air d'être très très populaire et vraiment sur le registre de la comédie quoi. Je pense que ça peut être très intéressant.
Tu es en train de plancher sur la programmation de décembre en ce moment.
Ouais, je suis en plein dedans.
Alors qu'est-ce que tu nous réserve comme surprise?
Alors c'est y a rien d'officiel, hein, c'est que de l'officieux. Alors ce qu'on essaye de faire au niveau de la programmation du Petit Casino, c'est d'avoir une programmation assez éclectique. Moi j'essaye d'avoir en général un film pour le jeune public, au moins un film par semaine pour le jeune public. Donc là on va avoir la dernière production Pixar Disney qui s'appelle le voyage d'Arlo. C'est une espèce d'uchronie en fait sur la préhistoire. C'est si les dinosaures il n'y avait pas eu l'extinction des dinosaures, du coup la cohabitation entre les hommes préhistoriques et les dinosaures. Je trouve ça assez intéressant du coup de la part de Pixar de jouer l'uchronie comme ça. La semaine d'après on aura du coup Avril et le monde truqué. C'est des dessins du bédéaste Tardi. On aura aussi un film pour les tout petits. On fait partie nous d'un dispositif qui s'appelle 1-2-3 Ciné, qui est mis en place par l'ACC, donc l'Association des Cinémas du Centre. Donc on propose chaque mois un film arrêté, mais pour les tout petits. C'est vrai que du coup les enfants à partir de 2-3 ans jusqu'à on va dire 6 ans, c'est pas un public cible pour les grands studios, pour Pixar, pour
Universal. Parce qu'on peut pas faire des films d'une heure et demie déjà avec.
Bah non, non. Donc du coup c'est un public qui est un peu oublié. Donc du coup grâce à ce dispositif là, on essaye de les solliciter quoi. Donc du coup on propose des films qui sont courts, des films d'une demi-heure au max 40 minutes. Donc pour les enfants à partir de 2-3 ans. Bon, y a aussi des films pour les plus.
Souvent, pourtant, on trouve des films, des petites pépites, notamment dans l'animation, des choses très osées.
Ouais.
Et c'est très rafraîchissant de voir même en tant qu'adulte, rafraîchissant de voir des films faits pour les tout-petits.
C'est ça. Donc là, le film, c'est Lila Anna. Donc c'est le film de décembre, le film de Noël, quoi. Après, on a un film qui sort, je vous dis, la programmation n'est pas sûre encore, pour les enfants, qui s'appelle « Oups, j'ai raté l'arche ».
D'accord.
Donc voilà, sur l'arche de Noé, des animaux du coup, qui auraient loupé l'arche et du coup qui auraient disparu aujourd'hui, quoi, vu qu'ils sont pas montés dans l'arche de Noé. C'est des animaux un peu improbables. On n'a pas la licorne, mais tu vois, c'est pas loin. Et puis ils sortent Snoopy.
Snoopy, super.
Un film d'animation, donc voilà, voir ce que ça donne. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Maintenant, on a fait le tour là au niveau des films d'animation. Mm-hmm. On a le dernier film de Judd Apatow qui sort, qui s'appelle Crazy Amy. Judd Apatow, je sais pas si vous connaissez, c'est un réalisateur de comédie américaine qui a réalisé notamment 40 ans toujours puceau. Il était producteur aussi sur la série Freaks and Geeks. Enfin, c'est un type super intéressant au travers de comédies comme ça qui ont l'air d'être très populaires et très très concon. Bah pas du tout en fait, il aborde des thèmes qui sont super intéressants
par le biais de la comédie.
Par le biais de la comédie, ouais. Non, Judd Apatow c'est vraiment très très chouette. En cloque mode d'emploi. Mm-hmm. C'était lui aussi.
Alors faut pas se fier trop au titre.
C'est les titres français, c'est oui, ça oui. Le problème. 40 ans toujours puceau et en cloque mode d'emploi, c'est les titres français. J'ai plus les titres originaux en tête, mais ça claque beaucoup plus quoi. Mais ouais, c'est des films super intéressants. Donc là, Crazy Amy, si vous avez l'occasion, il faut aller voir le dernier film de Judd Apatow. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dont on peut parler rapidement? Bon, on a le dernier Star Wars qui sort.
Ah oui, alors là, la sortie de l'année.
C'est ouais, la sortie de l'année.
Une soirée spéciale autour de Star Wars.
Moi j'ai voulu, on a fait là au mois d'octobre, on a fait une soirée Retour vers le futur pour la date anniversaire du 21 octobre 2015, qui est la date anniversaire à laquelle Marty arrive dans le futur. On a fait une soirée au cinéma où on a passé les trois films, on s'est fait une petite pause pizza un peu conviviale comme ça. Donc la soirée a fini à 2h du mat, c'était super, on a rempli la salle, c'était vraiment génial. Donc je me suis dit, bah tiens, si ce genre de proposition intéresse les gens avec la sortie du nouveau Star Wars, j'appelle la Fox, parce que du coup c'est eux qui ont les droits du coup de l'épisode 4, 5, 6. Du coup, je ne vais pas passer l'épisode 1, 2, 3, mais le 4, 5, 6. Donc
à
Star Wars, ouais, Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et ils m'ont gentiment dit que c'était hors de question.
Ah d'accord.
Ouais, non, c'est pas du tout dans leur planning. Apparemment, ils ont... Ils ont prévu comme ça une ressortie. Les films n'ont pas été numérisés encore, ils sont encore en pellicule. Donc, moi je pense qu'ils ont juste loupé le coche, la Fox. Hein. J'espère qu'ils m'entendent.
C'est un peu. Je pense qu'ils t'entendent. On espère.
Non, je pense qu'ils ont carrément loupé le coche parce que du coup, la sortie de l'épisode 7, c'était vraiment le moment ou jamais de le faire. Quoi. Au niveau du côté des films à réessayer, moi j'aimerais bien du coup pouvoir programmer un film qui s'appelle Francophonia. De Alexandre Sokourov, qui s'intéresse au musée du Louvre pendant l'occupation allemande. Voilà, c'est partie des films que j'aimerais bien pouvoir passer. La peau de Bax aussi, film de Alex van Warmerdam, qui est un cinéaste hollandais qui avait réalisé Les Habitants.
Les Habitants,
ouais. Complètement hallucinant. Quoi. Mm-hmm. Quoi d'autre? Cosmos, le dernier film de Zulawski, qui peut être très très intéressant. Guy Madin ressort un nouveau film aussi avec. C'est dingue, c'est la pression du micro. Avec Mathieu Amalric, pardon. Avec Mathieu Amalric et Amira Kazar. Donc, Guy Madin, c'est un super réalisateur qui est d'origine. Il est canadien. Et il fait des films complètement barrés. Si vous avez l'occasion d'aller voir 2-3 extraits là de La Chambre Interdite, son nouveau film, il y a moyen que ce soit très très chouette quoi. Donc tout ça c'est pas établi encore. Hein. C'est plus des envies qu'autre chose, mais voilà.
Mais très prochainement, on pourra en discuter. Et puis voilà, le programme sort au début du mois, c'est ça généralement?
En général, même en fin de mois. Là, on est quoi? On est le 20.
Tout à fait.
Et normalement, lundi, mardi, le programme devrait être bouclé. Et il devrait être disponible vendredi, donc le 27.
C'est intéressant cette programmation parce qu'il y a un peu de tout généralement.
C'est le but, ouais. C'est ce que je te disais, moi en général sur une semaine, j'essaie d'avoir un film jeune public, un film on va dire assez commercial, un blockbuster quoi, un film voilà, pour les ados, pour le grand public. C'est pas péjoratif hein, pour moi dire un blockbuster, un film commercial hein, pour moi il y a des très très bons films des très très bons films commerciaux et pour la RSC pareil on programme un film à RSC chaque semaine. Il y a aussi des navets dans la RSC hein. Moi je fais pas de distinction, c'est pour ça qu'on programme de tout. Et puis en général voilà une comédie française ou ce genre de choses, c'est un peu la programmation idéale quoi.
En effet, il y en a pour tout le monde.
C'est le but, que tout le monde soit content. Et puis on essaye, dans la mesure du possible, de faire de la VO aussi. Parce que du coup, depuis que le cinéma est passé au numérique, on a cette possibilité-là. C'est une possibilité, hein, parce que du coup, c'est pas du goût de tout le monde en général, notamment au niveau des distributeurs qui, eux, voient l'aspect financier. Parce que du coup, nous, sur une billetterie, on garde 50% des recettes et on leur redonne 50% à eux, aux distributeurs, donc du coup, pour les ayants droit, pour les droits d'auteur. Et du coup, eux, ils se rendent compte qu'effectivement, la version française marche mieux que la VO. Donc du coup, ils sont plus enclins à nous filer de la VF parce que c'est ce qui fait plus d'argent, quoi.
Il y a plus de monde.
Les
gens préfèrent voir en VF qu'en VO. D'accord.
Ça dépend des fois aussi. Ça dépend des films. Moi, je vois, par exemple, on avait passé le dernier Wes Anderson, Le Grand Budapest Hotel.
Oui.
On l'avait passé et en VF et en VO. Dans l'absolu, si je pouvais, chaque film étranger serait en VF et en VO pour contenter tout le monde, mais c'est pas facile. Et on avait fait autant d'entrées pour la VF que pour la VO. Mais sur des gros films comme ça, par exemple sur Spectre, on a de la VO. L'année dernière, pour la sortie de l'année dernière et l'année d'avant même pour la sortie du Hobbit, moi j'avais calé des séances en VO et elles avaient cartonné quoi. On avait fait plus de monde même que sur certaines séances en VF. Donc il faut savoir choisir les films aussi, c'est pas évident, mais il y a un public pour la VO, il faut le dire, c'est important.
Oui, tout à fait. Pour conclure, on a fait un peu le tour hein, de cette programmation du mois de novembre, du mois de décembre. Pour conclure cette émission, j'aimerais que tu changes de casquette, ou peut-être pas totalement, mais que tu nous présentes un peu les voyeurs. On a vu ce petit logo arriver sur les programmes du petit casino, et je pense que tu es caché derrière avec certainement un acolyte.
Ouais, tout à fait. Donc mon acolyte, c'est Aurélien Le Mans, qui lui a plusieurs casquettes aussi. Il est comédien, il est cinéphile, il est auteur. Il est signé chez une maison d'édition à Lyon qui s'appelle Le Feu Sacré. Et Les Voyeurs, c'est né d'une rencontre du coup avec Aurel. Il est venu me voir un jour. Il est venu me voir moi en tant que programmateur en me disant voilà, il y a un film qui sort que j'ai vu à Lyon qui s'appelle L'étrange couleur des larmes de ton corps de Hélène Katté et Bruno Forzani. Il s'avère que moi je suis un grand fan de ces cinéaste là aussi, qui avait réalisé un film dont je suis vraiment amoureux qui s'appelle s'appelle Amer. C'est un hommage au giallo, au film italien comme ça des années 70. Et je lui dis écoute, ça me fait super plaisir parce que j'adorerais programmer ce film, mais j'osais pas en fait. Parce que je me dis on va faire personne. Il me dit eh ben on le programme et du coup moi j'anime une discussion après pour créer une animation un petit peu autour du film et faire venir plus de monde. Donc du coup on est parti là-dessus. La soirée s'est super bien passée, on a eu pas mal de monde sur un film assez difficile, hein, au final c'est très 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 complexe, le cinéma de Kate et Forzani. Et du coup on a eu envie de continuer, quoi. On s'est dit autant continuer à programmer des films qui nous font envie et d'animer une petite discussion comme ça. Donc on est parti plus sur des films qui sont classés patrimoine et répertoire. Donc des films qu'on appelle des films cultes. Donc on a passé le duel de Spielberg, les Dents de la Mer par exemple, on a passé 2001, l'Odyssée de l'espace. Et au fur et à mesure des mois, on s'est dit il faut qu'on prenne une identité en fait, plus que ce soit Aurélien Amugno et Aurélien Le Mans, on a décidé de se regrouper sous un nom. Donc on a fait une référence comme ça au film de Michael Powell qui s'appelle le Voyeur, qui est un des premiers slashers de l'histoire du cinéma. Et donc du coup on a pris le nom Les Voyeurs, et chaque mois on programme comme ça un film culte, un film patrimoine répertoire ou pas d'ailleurs, ça nous est arrivé de programmer des films qui étaient dans les sorties et les sorties actuelles. Et donc on fait un débat à l'issue de la séance et on essaye de faire aussi une petite animation en avant. On profite du coup des talents de comédien d'Aurel parce qu'il est aussi lecteur public. Et donc du coup on donne il donne une lecture en général avant le film. Là par exemple le dernier film qu'on a passé pour Les Voyeurs, c'était Blade Runner
Director Cut,
le Final Cut.
Donc ouais. Ça faut l'expliquer peut-être aux auditeurs qui ne connaîtraient pas l'histoire.
Ouais, c'est une histoire compliquée, Blade Runner, ouais. Ridley Scott en fait il s'est fait gentiment virer non mais c'est vrai, il s'est fait virer après du coup après l'aspect production pure quoi. Une fois qu'il a eu tourné les images, la boîte de prod lui a dit merci, on va s'occuper du montage. Donc du coup ils ont fait un montage qui plaisait pas forcément à Ridley Scott. Et du coup, pendant les projections test, ils se sont rendus compte que les gens ne comprenaient pas. C'était un film assez obscur. Donc du coup, ils se sont sentis obligés de rajouter une voix off. Donc ils ont fait revenir Harrison Ford qui a rajouté une voix off très très narrative, très très didactique, tu vois, pour expliquer aux gens qui sont stupides. Hein. C'est vrai, les gens sont stupides, il faut tout leur expliquer. C'était un peu ça la démarche du coup du studio. Et donc le film est sorti en 82 dans cette version-là. Et il y a eu un festival du film en 70 mm, je sais plus en quelle année. Et du coup, ils ont voulu passer Blade Runner, donc ils ont trouvé une copie 70 mm. Sauf que du coup, c'était un autre montage, le montage original sans la voix off que le studio avait redemandé. Et il faut savoir que le film a fait un flop à sa sortie en 82.
Ah oui. Alors que maintenant, c'est un film mythique.
Ah, c'est un film mythique, ouais. Et du coup, ils se sont rendu compte que la version d'origine, pas celle commandée par studio avec la voix off, marchait bien en fait. Et du coup, le film
c'est pas mal ce film, c'est quoi?
En fait, sans la voix off et tout, ça marchait bien. Et il y avait une fin, une happy end et tout. Enfin, ils avaient vraiment salopé le truc, quoi. Et le film est devenu culte dans les années du coup 90, quoi. Et Ridley Scott est revenu là-dessus pour lui faire son montage, parce que du coup c'était toujours pas son montage à lui, c'était le premier qui avait été fait par les studios. Et du coup il y a un final cut. Bon, honnêtement il y a vraiment juste 2-3 plans, des inserts en plus, c'est pas transcendant. On sent pas vraiment la différence avec la version qu'on connaît, la version de 92, donc le director's cut. Il y a pas trop de différence entre le director's cut et le final cut. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est un film qui est super à voir sur grand écran. Et donc Aurel, qui est spécialiste de science-fiction, il est fan de notamment de super-héros, et c'est un spécialiste de Philip K. Dick.
D'accord.
Donc il a donné une lecture avant de, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes de Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui est le titre original de la nouvelle, qui a été réédité après suite au succès du film dans les années 90 sous le titre Blade Runner. Donc on essaye de proposer ce genre de truc, quoi. Là on est sur notre programmation du mois de décembre, on sait pas trop encore ce qu'on va pouvoir passer.
En tout cas vous avez fait une petite liste de tous les films là, je les vois qui traînent sur la table de la radio. On voit 2001, l'Odyssée de l'espace,
ça c'est fait, on l'a vous déjà passé fait, ouais.
Mais on voit des titres des gens comme Alfred Hitchcock.
Ouais, on a passé déjà La mort aux trousses d'Hitchcock, oui. C'est pareil, ça c'est fait. Donc on est vraiment sur du gros classique. On a passé Phantom of the Paradise de Brian De Palma.
Ah oui.
Donc ça c'est des séances qu'on fait en VO. Non, là les films qui nous titilleraient bien, c'est moi un film que j'aimerais beaucoup passer, un film pseudo d'épouvante, un peu gothique, c'est Les Innocents de Jack Clayton. Ça on aimerait beaucoup passer La Nuit du Chasseur. mm-hmm. de Charlottetown. Qu'est-ce qu'on a donné, enfin, on a plein de trucs, quoi, plein de trucs.
Ouais, la liste est longue.
Ouais, c'est assez long. On a passé les 7 samouraïs de Kurosawa aussi, qui fait pareil, qui fait près de 4 heures. Donc ouais, c'est des séances qui sont chouettes et en plus du coup les débats après ont tendance à s'éterniser un petit peu, donc on parle un peu cinéma toute la nuit, quoi. C'est des moments qui sont très chouettes, ouais. Donc si vous avez l'occasion de venir au petit casino,
donc si vous voyez le petit logo des voyeurs, donc ouais, les voyeurs sur bien un des programmes du petit casino, eh bien n'hésitez pas, vous savez que ça va être animé,
ouais,
et que et ça va être un film dont vous vous souviendrez toute votre vie.
Ouais, que vous avez peut-être sûrement déjà vu, mais peut-être pas sur grand écran, et c'est vraiment une expérience à part entière, quoi. On a fait récemment Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone sur grand écran, et non, vraiment, les films prennent vraiment leur vraie dimension, et on peut en parler vraiment après pendant des heures. Honnêtement, hein, en les revoyant sur grand écran.
Et puis avec le son aussi.
Ouais, bah c'est pareil, ouais, il y a tout un travail sur le son, sur ces films-là. Et il n'y a qu'en salle que tu peux vraiment te rendre compte, quoi. Surtout sur des films, par exemple, comme ça, ouais, le Bon, la Beauté et le Truand, qui sont les films en plus tournés en scope. Tu vois ça sur ton petit écran de télé, t'as tes deux bandes noires au-dessus, tu peux pas profiter clairement de l'image cinéma, quoi. Il faut vraiment venir les voir sur grand écran, c'est vraiment des super expériences, quoi.
Merci Aurélien d'être venu à Blois dans les studios de Studio Zef.
Merci à vous pour l'invite et puis
on se revoit le mois prochain.
Ah, il y a pas de souci.
Très bien, on pourrait parler encore pendant longtemps, je pense, avec toi cinéma.
Ouais, ouais. Même d'autres choses. Hein. Il y a pas de souci.
Donc on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel agenda spécial cinéma. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Au revoir.
Ciao.